3. Transition à notre véritable étude. Plan. Du soin de l'État pour le bien positif, et en particulier pour le bien-être physique des citoyens. Chapitre 3, 2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867. En se servant d'une formule tout à fait générale, on pourrait déterminer comme suit la véritable étendue de l'action de l'État. Tout ce qu'il pourrait faire pour le bien de la société sans porter atteinte aux principes établis plus haut. Et il s'en déduirait directement cette définition plus précise. L'État s'ingère de façon immorale dans les affaires privées des citoyens, toutes les fois que celles-ci n'impliquent pas immédiatement une atteinte portée aux droits de l'un par un autre. Toutefois, pour épuiser entièrement la question proposée, il est nécessaire de passer en revue les divers aspects de l'influence ordinaire ou possible de l'État. Car son but peut être double. Il peut chercher à promouvoir le bonheur, ou bien il peut se borner à vouloir empêcher le mal. Et, dans ce dernier cas, à empêcher le mal venant de la nature, ou le mal causé par les hommes. S'il se contente du second de ces mots, c'est la sûreté seule qu'il cherche. Et c'est cette sûreté que j'opposerai à tous les autres buts possibles, compris sous le nom de bien-être positif. De plus, la différence des moyens employés par l'État donne à son action une étendue diverse. En effet, ou bien il cherche à réaliser immédiatement son but, soit par la contrainte, par des lois impératives et prohibitives, par des peines, soit à travers l'encouragement et le bon exemple. Ou bien, de quelque manière que ce soit, il donne à la situation des citoyens la forme favorable à la réalisation de ses vues et les empêche d'agir dans un autre sens. Ou enfin, il travaille, même à mettre leurs inclinations en harmonie avec sa volonté, à agir sur leur tête et leur cœur. Dans le premier cas, il ne détermine d'abord que des actes isolés. Dans le second, il détermine déjà davantage leur façon d'agir en général. Dans le troisième, enfin, il détermine leur caractère et leur manière de penser. Aussi, dans le premier cas, l'efficacité de la restriction est-elle la plus faible, dans le second, elle est plus grande. Énorme dans le troisième, en partie parce que l'on agit sur les sources d'où découlent plusieurs actions, en partie parce que la possibilité de l'action même exige plus de disposition. Toutefois, autant les branches de l'influence de l'État paraissent différentes, autant il est impossible de trouver une disposition de l'État qui ne touche pas à plusieurs de ces branches à la fois. Car, par exemple, la sûreté et le bonheur dépendent étroitement l'un de l'autre. Ce qui ne restreint que des actions isolées, agit d'une manière générale sur le caractère, lorsque la fréquence de l'emploi qu'on en fait devient une habitude. Ainsi, il serait fort difficile de trouver une distribution de tout ceci convenable pour la marche de notre étude. Le mieux sera toutefois de vérifier avant tout si l'État doit viser également le bien-être positif de la nation, ou seulement sa sûreté. D'examiner dans toutes ces prescriptions seulement ce qu'elles ont principalement pour objet et pour conséquence, et d'étudier les moyens dont l'État peut se servir pour atteindre chacun de ces deux buts. Je parle ici de tout travail de l'État pour augmenter le bien-être positif de la nation, de tout soin pour la population du pays, pour l'entretien des habitants, soit direct, par l'établissement de maisons de charité, soit indirect, par l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Je parle de toutes les opérations financières et monétaires, de toutes les prohibitions d'importer ou d'exporter, en tant qu'elles sont établies pour cette fin. En un mot, de toutes les dispositions prises pour éviter ou réparer les dommages causés par la nature. Bref, de toute disposition de l'État ayant pour intention de maintenir ou de promouvoir le bien matériel de la nation. Quant au bien moral, en effet, Ce n'est pas précisément pour lui-même, mais pour le maintien de la sûreté qu'on le recherche. Par conséquent, je n'en parlerai que plus loin. Toutes ces dispositions ont, suivant moi, des conséquences fâcheuses. Elles ne sont pas conformes à la vraie politique, celle qui procède de points de vue élevés, mais toujours humains. 1. L'esprit du gouvernement domine dans chacune de ces dispositions. Et, quelque sage, quelque salutaire que soit cet esprit, il impose à la nation l'uniformité ainsi qu'une manière d'agir étrangère à elle-même. Les hommes alors obtiennent des biens au grand préjudice de leurs facultés, au lieu d'entrer dans la société pour y augmenter leurs forces, fût-ce au prix de quelques-uns de leurs avantages ou de leurs jouissances naturelles. C'est précisément la diversité naissante de l'union de plusieurs individus qui constitue le plus grand bien que puisse donner la société. Et cette diversité décroît dans la mesure de l'ingérence de l'État. Ce ne sont plus vraiment les membres d'une nation qui vivent en communauté. Ce sont des sujets individuels mis en rapport avec l'État, c'est-à-dire avec l'esprit qui domine dans son gouvernement. Et ce rapport est tel que la puissance supérieure de l'État entrave bientôt le libre jeu des forces. Semblables causes, semblables effets. Par conséquent, plus l'État concourt à l'action, plus la ressemblance grandit, non seulement entre les agents, mais encore entre les actes. C'est là précisément le désir des États. Ils veulent la prospérité et la tranquillité. On obtient l'un et l'autre plus facilement lorsque les intérêts individuels luttent moins vivement entre eux. Mais ce que l'homme a en vue, ce qu'il doit avoir en vue, c'est tout autre chose, c'est la variété et l'activité. Elles seules forment les caractères riches et puissants. Et certes, il n'est pas d'homme, si abaissé qu'il soit, qui préfère pour lui la prospérité et le bonheur à la grandeur. Mais celui qui raisonne ainsi pour les autres, se fait tout naturellement soupçonner, et non à tort, de méconnaître l'humanité et de vouloir transformer les hommes en machines. 2. Le second mal causé par ces dispositions de l'État est qu'elles diminuent la force de la nation. De même que la forme, qui naît d'une matière douée d'une activité consciente d'elle-même, donne à la matière plus de plénitude et de beauté. Car le beau est-il autre chose que l'alliance d'éléments qui, d'abord, se combattaient ? Alliance à laquelle l'indication de nouveaux points de jonction, et, par suite, un grand nombre de découvertes nouvelles, est toujours nécessaire. Alliance qui grandit toujours en même temps que la diversité qui existait avant elle. De même, la matière est anéantie par la forme qu'on veut lui donner de l'extérieur. Car le néant y supprime l'être. Tout dans l'homme est organisation. Tout ce qui est censé croître en lui doit être semé en lui. Toute force présuppose l'enthousiasme. Et peu de choses l'alimentent autant que l'idée que ce qu'il aspire est une propriété présente ou à venir. L'homme considère comme à lui non pas tant ce qu'il possède que ce qu'il fait, et l'ouvrier qui cultive un jardin en est peut-être plus exactement le propriétaire que l'homme oisif et désœuvré qui en jouit. Peut-être ce raisonnement trop général ne paraît-il permettre aucune application à la réalité des faits. Peut-être même paraît-il que l'extension de beaucoup de sciences que nous devons surtout à ces dispositions de l'État, qui seul peut faire des essais en gros, est plus utile au développement des facultés intellectuelles, et à travers elle, de la culture, et du caractère en général. Or toute acquisition nouvelle de connaissances n'est pas immédiatement un perfectionnement, même des seules facultés intellectuelles, et quand un tel perfectionnement se produit vraiment de cette manière, il profite, non pas à la nation tout entière, mais à une partie seulement, à ceux qui participent au gouvernement. En général, l'intelligence de l'homme, comme toutes ses autres forces, ne progresse que par son activité propre, par sa créativité propre, ou par l'usage qu'il tire, lui-même, des découvertes faites par autrui. À l'inverse, les dispositions de l'État sont toujours plus ou moins accompagnées de contraintes, et même lorsqu'il n'en est point ainsi, elles habituent l'homme à compter sur un enseignement étranger, sur une direction étrangère, sur un secours étranger, plutôt qu'à chercher lui-même des ressources. La façon presque unique dont l'État peut instruire les citoyens n'est pas autre que celle-ci. Ce qu'il croit le meilleur, pour ainsi dire, ce qui est le résultat de ses recherches, il le pose. Puis il y conduit les citoyens, soit directement par une loi, soit indirectement par quelque institution toujours obligatoire pour eux, ou par sa bonne réputation, par la proposition de récompense, par quelque autre moyen d'encouragement. Ou bien enfin, il se borne à le recommander par le seul raisonnement. Mais quelle que soit celle de ces méthodes qu'il prenne, il s'éloigne toujours beaucoup du meilleur procédé à suivre pour enseigner. Car celui-là consiste incontestablement à présenter toutes les solutions possibles du problème, afin de préparer l'homme seulement à choisir lui-même la plus convenable, ou mieux encore, afin de le préparer à trouver cette solution lui-même, rien qu'à travers un exposé adéquat de tous les obstacles. L'État peut suivre cette méthode d'enseignement envers des citoyens adultes seulement d'une manière négative, par la liberté, qui, tout en laissant naître les obstacles, procure aussi la force et l'habileté de les enlever. D'une manière positive, il peut la suivre envers ceux qui sont seulement en train de se cultiver, à travers une véritable éducation nationale. On examinera plus amplement par la suite l'objection qui se présente facilement ici. Elle consiste à dire que pour le soin des affaires dont nous parlons ici, l'accomplissement de la chose est plus important que l'éducation de celui qui l'exécute. Il est plus important que le champ soit bien cultivé, et moins que celui qui le laboure soit justement l'agriculteur le plus habile. Les soins trop étendus de l'État font souffrir encore davantage l'énergie d'action et le caractère moral. Ceci n'exige guère plus de développement. Celui qui est fortement et souvent dirigé en arrive facilement à sacrifier soi-disant volontairement ce qui lui reste d'activité propre. Il se croit dispensé du soin qu'il voit dans des mains étrangères. Il croit assez faire en attendant leur direction et en la suivant. Ainsi, les notions du mérite et de la faute se déplacent en lui. L'idée du mérite ne l'enflamme plus. Le sentiment inquiétant de la faute ne le saisit que plus rarement et d'une manière moins efficace. Il la met sur le compte de sa situation et de ceux qui l'ont faite. S'il en vient à penser en plus que les intentions de l'État ne sont pas entièrement pures, s'il croit voir que l'État ne cherche pas seulement son avantage, mais qu'il poursuit en même temps un autre but secondaire et étranger à celui-là, ce n'est pas seulement l'énergie, mais aussi la qualité de sa volonté morale qui est atteinte. Non seulement, il se considère comme affranchi de tout devoir que l'État ne lui impose pas expressément, mais aussi de toute amélioration de sa propre situation. Il en vient même parfois à craindre toute amélioration, au sens qu'elle n'apporterait qu'une nouvelle occasion pour l'État d'en tirer profit. Il cherche à échapper, autant qu'il le peut, même aux lois de l'État, et il considère que chaque violation est un gain. Quand on songe que, pour une partie non négligeable de la nation, l'étendue de la morale ne dépasse pas, pour ainsi dire, les lois et les ordonnances de l'État, c'est un spectacle décourageant de voir les plus sains devoirs et les ordres les plus arbitraires formulés par la même bouche et soumis souvent à la même sanction. Cette influence pernicieuse est tout aussi visible dans le comportement des citoyens les uns envers les autres. Comme chacun compte pour soi-même sur la sollicitude de l'État, chacun lui confie aussi et bien mieux encore le sort de ses concitoyens. Or cette conscience qu'ils ont de l'intervention de l'État affaiblit l'intérêt qu'ils devraient se porter les uns aux autres, tout comme l'impulsion de s'entraider. Au contraire, l'aide donnée en commun est d'autant plus active, que chaque homme sent plus vivement que tout dépend de lui-même. Et, l'expérience montre que dans les classes opprimées, soi-disant abandonnées par le gouvernement, le sentiment d'union redouble d'énergie. Mais, Quand le citoyen est plus froid vis-à-vis de son concitoyen, il en est de même de l'époux vis-à-vis de son épouse, du père vis-à-vis de sa famille. Abandonné à lui-même dans toute activité, privé de tout secours étranger qu'il ne se serait pas procuré lui-même, l'homme serait, par sa faute ou sans, souvent en butte à l'embarras et au malheur. Mais le bonheur réservé à l'homme n'est autre que celui qu'il se procure lui-même par sa propre force. Et ce sont ces situations-là qui aiguisent l'intelligence et forment le caractère. Quand l'État entrave l'activité individuelle par une intervention trop spéciale, ces maux ne surgissent-ils donc pas ? Ils y surgissent aussi, et ils abandonnent à un sort bien plus désespéré l'homme, qui a pris une fois l'habitude de s'appuyer sur une force étrangère. Car autant la lutte et le travail actif allègent le malheur, autant, et 10 fois davantage, l'attente sans espoir, déçue peut-être, le rend plus lourd. Même supposant le meilleur des cas, les états dont je parle ici ne ressemblent que trop souvent à ces médecins qui alimentent la maladie et éloignent la mort. Avant qu'il n'existe des médecins, on ne connaissait que la santé ou la mort. 3. Tout ce qui occupe l'homme, que cela serve seulement à satisfaire directement ou indirectement ses besoins physiques, ou, de façon plus générale, à atteindre un but extérieur quelconque, tout cela se relie intimement à ses sentiments intérieurs. Quelquefois aussi le but ultime extérieur est accompagné d'un autre but intérieur. Et parfois, c'est celui-ci qu'on vise vraiment. Quant à l'autre, on ne fait que l'y rattacher par nécessité ou par hasard. Plus l'homme a d'unité, plus l'objet extérieur qu'il choisit jaillit librement de son être intérieur. Et là se relie à l'autre d'une manière d'autant plus étroite et fréquente qu'il n'a pas été choisi librement. C'est ainsi que l'homme intéressant est digne d'intérêt dans toutes ses situations et dans toutes ses activités. C'est ainsi qu'il fleurit et arrive à une beauté sublime, dans une façon de vivre qui concorde avec son caractère. C'est ainsi, peut-être, que l'on pourrait former tous les paysans et ouvriers pour qu'ils deviennent des artistes, c'est-à-dire des hommes qui aimeraient leur industrie pour elle-même, qui l'amélioreraient par une direction et un génie à eux propres, qui, par là même, cultiveraient leurs forces intellectuelles, ennobliraient leur caractère, élèveraient leur jouissance. Ainsi, l'humanité serait ennoblie justement par ces choses, qui maintenant, quoique belles en elles-mêmes, ne servent souvent qu'à la déshonorer. Plus l'homme est habitué à vivre dans le monde des idées et des sentiments, plus son intelligence et sa moralité sont vigoureuses et raffinées, plus il cherche à choisir exclusivement des situations extérieures telles qu'elles, enrichissant en même temps son moi intérieur, ou du moins à saisir les côtés, qui présentent un tel avantage dans toutes les situations dans lesquelles le destin le jette. On ne saurait mesurer combien l'homme récolte en grandeur et en beauté quand il s'applique sans relâche à ce que la première place revienne toujours à son être intérieur, quand il considère celui-ci comme la source première et le but final de tout son labeur, tandis que le corps n'est pour lui qu'une enveloppe, l'objet extérieur qu'un outil. Pour choisir un exemple, combien le caractère développé, dans un peuple par l'agriculture laissée libre, ne se distingue-t-il pas dans l'histoire ? Le travail qu'il consacre au sol et la récolte, qu'il en dédommage, rapproche tendrement l'homme de son champ et de son foyer. La participation à l'effort béni, la jouissance en commun du gain, établissent dans chaque famille une douce liaison, dont n'est même pas entièrement exclu le taureau, compagnon du travail. Les fruits qu'il faut semer et récolter, mais qui poussent chaque année, et ne trompent que rarement l'espérance, rendent l'homme patient, confiant, économe. Le don toujours reçu directement des mains de la nature. Le sentiment toujours s'imposant que, si c'est la main de l'homme qui doit répandre la semence, ce n'est pas elle qui la fait germer et croître. La continuelle dépendance de la saison favorable donne au cœur la pensée, tantôt terrible, tantôt douce, d'être supérieur. Elle inspire tour à tour la crainte et l'espoir. Et cela pousse à la prière et à la reconnaissance. l'image vivante de la grandeur la plus simple, de l'ordre le plus indestructible, de la bonté la plus immense, forme des âmes dotées de grandeur, de simplicité, de douceur, soumises de façon heureuse à la morale et aux lois. Toujours habituée à produire, jamais à détruire, l'agriculture est pacifique. Elle est loin de l'insulte et de la vengeance. Mais elle est remplie du sentiment que toute agression non provoquée est injuste, et elle est animée d'un courage intrépide contre tout destructeur de sa paix. Toutefois, la liberté est la condition absolument nécessaire, sans laquelle même les activités qui portent le plus nettement le cachet de l'âme ne peuvent entraîner aucune des conséquences salutaires de ce genre. Ce que l'homme ne choisit pas lui-même, ce en quoi il est gêné, ou vers quoi il est mené, ne s'identifie jamais avec son être, et lui reste toujours étranger. Pour l'accomplir, il n'emploie pas vraiment ses forces d'homme, mais une adresse de mécanique. Les anciens, les Grecs surtout, considéraient comme nocive et déshonorant toute occupation ayant pour objet, non le développement du moi, mais seulement celui des forces corporelles, ou l'acquisition de biens extérieurs. Leurs philosophes les plus philanthropes approuvaient à cause de cela, l'esclavage. Pour eux, c'était un moyen, injuste et barbare sans doute, d'assurer le développement de la force ultime et de la beauté d'une partie du genre humain par le sacrifice de l'autre partie. Mais la raison et l'expérience font aisément voir l'erreur qui sert de base à tout ce raisonnement. Toute activité est capable d'ennoblir l'homme, de lui donner une forme bien définie et digne de son être. Tout ce qui compte, c'est la manière dont l'homme se livre à cette activité. Et ici, l'on peut certainement considérer, comme règle générale, qu'elle produit des effets salutaires, tant que l'activité elle-même et l'énergie, qui est consacrée, remplissent principalement l'âme de l'homme. Qu'au contraire, ces effets sont moins bons, même souvent pernicieux quand l'homme voit surtout le résultat auquel elle conduit, et quand il considère l'activité elle-même seulement comme un moyen. Car tout ce qui est attrayant en soi excite l'estime et l'amour. Ce qui ne représente qu'un moyen utilitaire n'éveille que les intérêts. Et, autant l'homme est ennobli par l'estime et l'amour, autant il est exposé au danger d'être ravalé par les intérêts. Si donc l'État prend des soins positifs de la nature de ce dont je parle ici, il ne peut se focaliser que sur les résultats, et que fixer les règles dont l'observation est la plus utile pour leur bon accomplissement. Ce point de vue étroit n'est jamais plus pernicieux que quand le véritable but de l'homme est purement moral ou intellectuel. Ou lorsque l'objet lui-même est visé, indépendamment de ses conséquences, et quand ses conséquences, elles-mêmes s'y rattachent seulement par nécessité ou par hasard. Il en est ainsi des études scientifiques, des opinions religieuses, de tous les liens qui unissent les hommes les uns aux autres, et du lien le plus naturel de tous, de celui qui est le plus important, pour les individus comme pour l'État, du mariage. Une union de personnes de sexe différent, fondée justement sur cette différence de sexe, suivant la définition la plus exacte, peut-être qu'on puisse donner au mariage, peut se comprendre d'autant de manières diverses qu'il y a d'expressions diverses de cette différence, et qu'il existe de penchants du cœur, de buts proposés pour la raison, en tant que résultat de cette même différence. Pour tout homme, on va y voir le reflet de son caractère moral tout entier, et principalement de la force et de la nature de sa sensibilité. L'homme se propose-t-il surtout d'atteindre un but extérieur, ou au contraire, préfère-t-il donner une occupation à son moi intérieur? Est-ce l'intelligence qui en lui est la plus active, ou bien le sentiment? A-t-il l'entreprise prompte et l'abandon facile? Ou a-t-il plutôt l'approche lente, et un sens de la préservation fidèle? Les liens qu'il tisse sont-ils distendus ou étroits? Jusqu'à quel point conserve-t-il son activité personnelle et spontanée dans l'union la plus intime? Tous ces points, et d'autres encore en nombre infini, modifient de manière ou d'autre sa condition dans la vie conjugale. Mais de quelque manière qu'elle soit déterminée, son action sur la personnalité et sur le bonheur de l'homme est évidente. L'effort qu'il fait pour réaliser son idéal réussit bien ou réussit mal. Mais de là dépend en grande partie l'élévation ou l'affaissement de son être. Cette influence est grande surtout sur la partie la plus intéressante de l'humanité, sur ceux qui ont la perception la plus délicate et la plus aisée, et qui conservent le mieux leurs impressions dans leur fort intérieur. Dans cette classe, il faut ranger les femmes plutôt que les hommes. Et pour cette raison, le caractère de celle-là dépend surtout de la nature des rapports de famille dans une nation. Dispensées entièrement d'un très grand nombre d'occupations extérieures. Livrées principalement à celles qui laissent le moi intérieur presque à l'abri de tout trouble. Plus fortes parce qu'elles sont capables d'être que parce qu'elles peuvent faire, plus expressives dans le sentiment silencieux que dans sa description extérieure, plus richement douée de la faculté d'exprimer directement et sans le secours des signes, possédant une stature plus délicate, un œil plus mobile, une voix plus saisissante. Destinées dans leur rapport avec autrui à attendre et à recevoir plutôt qu'à aller au-devant. Plus faibles par elles-mêmes, mais s'attachant plus profondément, non pour cela, mais par l'admiration de la grandeur et de la force d'autrui. Aspirant sans cesse, dans l'union, à recevoir de l'être auquel elles sont unies, à former en elles ce qu'elles ont reçu, et à le rendre tout formé. En même temps plus animée du courage, que la sollicitude aspire à l'amour, et le sentiment à la force, qui ne brave pas l'adversité, mais qui ne succombe pas à la douleur, les femmes approchent plus que l'homme de l'idéal de l'humanité. Et, s'il n'est pas faux qu'elles l'atteignent plus rarement que lui, c'est uniquement parce qu'il est partout plus difficile de suivre le sentier direct et raide que de prendre le détour. Mais aussi, il n'est pas besoin de rappeler combien un être, qui est aussi réceptif, et qui a en soi tant d'unité, en qui, par conséquent, aucune influence ne reste sans effet, et en qui chaque influence se saisit non seulement d'une partie, mais de tout, combien un tel être est profondément troublé par les froissements extérieurs. Toutefois, on ne saurait énumérer tout ce qui, dans la société, dépend du développement du caractère de la femme. Si je ne me trompe, et si je puis ainsi parler, toute qualité éminente se manifeste dans une certaine classe d'êtres. Le caractère de la femme est ainsi de sauvegarder tout le trésor des bonnes mœurs. L'homme aspire à la liberté, la femme à la pureté, l'Efkur Libraket. Goethe. Torquato Tasso, acte 2, scène 1. Et si, suivant ce mot profond et vrai du poète, l'homme s'efforce de reculer les barrières extérieures qui font obstacle à la croissance, la main soigneuse de la femme pose les bienfaisantes limites intérieures, sans lesquelles la plénitude de la force ne saurait se transformer en fleur. Elle établit ses limites avec d'autant plus de délicatesse que la femme saisit plus profondément l'existence intérieure de l'être humain et qu'elle comprend mieux ses conditions diverses. En effet, tous ses sens se tiennent le plus volontairement à sa disposition, ce qui la dispense d'employer ses ratiocinations qui obscurcissent si souvent la vérité. Si cela paraissait encore nécessaire, l'histoire confirmerait aussi cette proposition et montrerait combien la moralité des nations se relie étroitement à la considération dont jouissent les femmes. De ce qui précède, il résulte l'éclaircissement que les effets du mariage sont tout aussi divers que les caractères des individus, et que les conséquences les plus fâcheuses peuvent donc se produire si l'État cherche à définir, par des lois, un lien aussi étroitement jumelé à la nature personnelle de chacun de ces individus, ou à le rendre, par ses décrets, dépendant d'autre chose que du seul penchant. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne peut, avec ses décrets, que se préoccuper des seules conséquences du mariage sur la population, sur l'éducation des enfants, etc. On peut sans doute démontrer que justement ces choses-là conduisent au même résultat quand elles sont accompagnées du plus grand soin pour la beauté de l'existence intérieure. Des études consciencieuses ont fait voir que l'union indissoluble et durable d'un seul homme et d'une seule femme est la plus favorable à la population, et incontestablement, aucune autre ne saurait découler de l'amour vrai, naturel et libre. Cet amour-là ne conduit pas à d'autres rapports que ce que les mœurs et la loi établissent parmi nous, tels la procréation, l'enseignement privé, l'association de la vie, la communauté des biens, la direction des activités extérieures par l'homme, la gestion de la maison par la femme. L'erreur consiste selon moi en ce que la loi commande, alors que de tels rapports ne peuvent naître que du penchant, point de prescription, extérieur. Et, lorsque la contrainte ou la direction imposée contrarie le penchant, celui-ci ne se verra d'autant moins ramené au droit chemin. Ainsi, je pense que l'État, non seulement devrait rendre les liens plus libres et plus larges, mais, s'il m'est permis de décider ici, seulement d'après les hypothèses présentées plus haut, alors qu'il est question, non du mariage en général, mais d'un inconvénient spécial qui saute à l'œil dans ce cas précis, qui provient des prescriptions restrictives de l'État, je pense encore qu'il devrait s'abstenir de toute action sur le mariage, le laisser entièrement au libre arbitre des individus, et aux divers contrats qu'ils concluent autour, autant en général que dans leurs modifications. La crainte de bouleverser par ce procédé tous les rapports de famille, ou peut-être d'en empêcher la seule formation, quelque fondée qu'elle soit, à cause de telle ou telle circonstance locale ne m'effraie point, en tant que je considère exclusivement la nature des hommes, et des États en général. Car l'expérience nous montre souvent que les mœurs restreignent ce que la loi libère. L'idée de contrainte extérieure est entièrement étrangère à ces rapports, qui, comme le mariage, reposent uniquement sur le penchant et le devoir intérieur. D'ailleurs, les conséquences des institutions coercitives ne répondent en rien aux intentions 8. Lefkur libre à quête. 8, c'est là que se termine le morceau inséré par Schiller dans la Thalia, suivi par une lacune. Note de l'éditeur. 4. Le soin de l'État pour le bien matériel des citoyens est nocif aussi, parce qu'il s'exerce nécessairement sur une foule hétérogène, et il nuit ainsi à l'individu, en définissant des règles générales, des règles qui ne s'appliquent à chacun qu'au prix d'erreurs considérables. 5. Il empêche le développement de l'individualité et de l'originalité personnelle de l'homme, dans la vie morale et, en général, dans la vie pratique de l'homme, pourvu que celui-ci observe à peu près les règles, n'allant peut-être pas plus loin que les seuls principes du droit, qu'il ait sans cesse devant les yeux le point de vue élevé de son propre développement original et de celui d'autrui. Qu'il soit en tout temps guidé par cette intention pure, et surtout qu'il fasse librement plier tout autre intérêt devant cette loi, reconnue sans y mêler quelque autre mobile que ce soit. Mais tous les côtés que l'homme peut cultiver en lui sont fort point étroitement liés. Si cette liaison dans le monde des choses intellectuelles, sans être plus intime, est déjà plus importante et plus facilement remarquable qu'elle ne l'est dans l'ordre des choses physiques, elle l'est encore bien davantage dans le monde moral. Les hommes doivent donc s'unir les uns aux autres pour faire disparaître, non leur personnalité originale, mais leur état d'isolement exclusif. L'union ne doit pas fondre un être dans un autre, mais ouvrir les voies de l'un à l'autre, si l'on peut ainsi parler. Chacun doit comparer ce qu'il possède de son propre fond avec ce qu'il reçoit d'autrui. Il doit modifier, mais non laisser étouffer l'un par l'autre. De même, en effet, que dans l'ordre intellectuel pour la vérité, de même dans le domaine de la morale, les choses vraiment dignes de l'homme ne sont jamais en conflit. Par conséquent, les liens étroits et variés qui unissent entre les caractères originaux sont tout aussi nécessaires pour anéantir ce qui ne peut subsister côte à côte, et ce qui, en tant que tel, ne mène donc ni à la grandeur ni à la beauté non plus, que, pour conserver, alimenter, renouveler et faire renaître plus belle la partie de nous-mêmes, qui reste intacte dans nos rapports les uns avec les autres. De là, un effort et un désir continu de bien comprendre le caractère le plus profondément personnel d'autrui, de l'utiliser et d'agir sur lui, tout en conservant le plus grand respect pour ce caractère qui est la propriété d'un être libre. Pour cette action, le respect dont nous parlons ne permettra pas facilement un autre moyen que celui de se montrer soi-même à découvert et de se livrer aux yeux d'autrui, pour ainsi dire, comme objet de comparaison. C'est là le principe le plus élevé de l'art des relations, de l'art peut-être le plus négligé de tous encore jusqu'aujourd'hui. On peut facilement puiser une excuse de cette négligence dans le fait que les relations doivent être une détente, non un travail fatigant, et que malheureusement bien des gens ont à peine en eux un côté intéressant et original, dont on puisse tirer profit. Toutefois, chacun devrait avoir trop de respect envers soi-même pour rechercher des détentes, qui ne seraient pas une autre occupation intéressante, ou pire, pour rechercher un tel genre de détente qui laisserait inactif, justement, ses facultés les plus nobles. Chacun devrait également avoir trop de respect envers l'humanité, pour ne déclarer un seul de ses membres entièrement incapable d'être utile ou modifié par l'influence d'un autre. Du moins ce critère ne doit jamais être absent de l'esprit de ceux qui font une vraie profession de manier et d'agir sur les hommes. Par suite, dans la mesure où l'État, quand il prend un soin positif, ne serait-ce que de ce bien extérieur et physique, qui se relie toujours intimement à l'être intérieur, ne peut s'empêcher de devenir un obstacle au développement de la personnalité individuelle, il s'agit là d'une nouvelle raison de ne jamais admettre un tel soin, en dehors des cas de nécessité absolue. Telles sont à peu près les conséquences les plus fâcheuses qu'entraînent les soins positifs pris par l'État pour le bien-être des citoyens. Elles se rattachent, il est vrai, dans une plus forte mesure à certains modes spécifiques dont on peut appliquer ces soins dans la pratique. Mais on ne saurait, à mon avis, les en séparer d'une manière générale. Jusqu'ici, je n'ai voulu parler que du soin pour le bien physique. Évidemment, je suis toujours partie de ce point de vue, et j'ai laissé de côté tout ce qui concerne exclusivement le bien moral. Mais j'ai rappelé tout au début que notre sujet lui-même ne permet aucune distinction précise. Que cela me serve donc d'excuse si beaucoup d'éléments des raisonnements que j'ai développés précédemment sont valables pour l'ensemble des soins positifs en général. Toutefois, j'ai supposé jusqu'ici que les institutions de l'État dont nous parlons étaient déjà en place. Je dois donc maintenant m'occuper de certains obstacles qui se produisent dans leur établissement même. 6. Évidemment, il serait tout à fait nécessaire, lors de cet établissement, de peser les avantages que l'on vise contre les inconvénients et surtout contre les restrictions à la liberté qui s'y rattachent toujours. Or, une telle comparaison ne se ferait que très difficilement. En effet, peut-être serait-il même impossible de l'établir d'une manière exacte et complète. Car toute disposition restrictive entre en collision avec la manifestation libre et naturelle des facultés. Elle crée jusqu'à l'infini de nouveaux rapports, et il est impossible de prévoir tout ce qu'elle entraîne, même en supposant la plus grande régularité dans la marche des événements, et en faisant abstraction de tous les hasards graves et imprévus, qui ne manquent cependant jamais de se produire. Tout homme qui a l'occasion de mettre la main au gouvernement supérieur de l'État reconnaît par expérience, et à ne point s'y tromper, que peu de mesures sont vraiment d'une nécessité immédiate et absolue à proprement parler, tandis que beaucoup d'entre elles n'ont qu'une nécessité purement relative, indirecte, dépendante d'autres mesures précédentes. Ainsi, une quantité bien plus considérable de moyens devient nécessaire, et ces moyens eux-mêmes nous éloignent du vrai but à atteindre. Non seulement un tel État a besoin de plus de recettes, mais il requiert aussi une organisation plus compliquée pour le maintien de la sûreté politique proprement dite. Les parties ont moins de cohésion entre elles, le soin de l'État doit être plus actif. De là naît la question, tout aussi difficile, et malheureusement trop souvent négligée, de savoir si les forces naturelles de l'État sont suffisantes à produire tous les moyens forcément nécessaires dans ce système. Si ce calcul est inexact, il existe une véritable disproportion. Des dispositions, nouvelles et compliquées, dépassent nécessairement les ressorts de l'État. C'est là un mal dont ne souffre, et pour bien d'autres raisons encore, que trop d'États modernes. Il ne faut surtout point oublier un dégât qui se produit ici, car il touche de si près à l'homme et à son développement. Ce mal vient de ce que l'administration proprement dite, des affaires d'État, devient tellement enchevêtrée, que, pour ne pas se transformer en une vraie confusion, elle rend nécessaire une foule de dispositions de détail, et occupe un grand nombre de personnes, qui, pour la plupart, n'ont qu'à noircir du papier avec des signes et des formules. Non seulement un grand nombre d'excellents esprits, peut-être sont ainsi empêchés de penser, et beaucoup de mains, qui pourraient s'occuper plus utilement, sont détournées du travail honnête. Mais de plus, leurs forces intellectuelles, elles-mêmes souffrent de cette occupation en partie vaine, et en partie trop spécialisée. Il naît alors une nouvelle profession ordinaire, à savoir le soin des affaires d'État, et celle-là rend les serviteurs de l'État bien plus dépendants de la partie gouvernante, qui les paye, que de la nation, proprement dite. L'expérience nous prouve encore bien d'autres maux, qui en découlent incontestablement. L'attente du secours de l'État, le manque d'indépendance, la fausse présomption, la paresse et l'insuffisance. Le vice d'unesse ces maux est ensuite engendré par eux, et ainsi de suite. Ceux qui traitent ainsi les affaires d'État tendent de plus en plus à négliger les choses elles-mêmes pour n'en considérer que la forme. Ils apportent à celles-ci des améliorations peut-être réelles. Mais, comme ils n'accordent pas à la chose principale une attention suffisante, ces améliorations lui sont souvent funestes. De là naissent des formes nouvelles, de nouvelles complications, souvent de nouvelles prescriptions restrictives, qui tout naturellement donnent lieu à une nouvelle prolifération des fonctionnaires. Pour cette raison, de décennie en décennie, dans la plupart des États, les effectifs des fonctionnaires croissent, et la bureaucratie se gonfle, tandis que la liberté des sujets diminue. Dans une pareille administration, tout dépend de la surveillance la plus stricte, de l'activité ponctuelle et consciencieuse, car les occasions d'y manquer sont d'autant plus nombreuses. Aussi s'efforce-t-on alors, et non sans raison, de faire tout passer par le plus de main qu'il se peut, et d'empêcher jusqu'à la possibilité d'une erreur ou d'une malversation. Par suite, les affaires se font de manière presque totalement mécanique, et les hommes deviennent des machines. La véritable habileté, la probité, disparaissent de plus en plus, et avec elles, la confiance. Enfin, comme ces occupations dont je parle prennent une grande importance, et doivent la maintenir, dans un simple souci de cohérence, les points de vue de l'importance, et du peu d'importance des choses, de l'honneur et de la honte, du but principal et du but accessoire, se voient bouleversés. Et comme la nécessité des occupations de cette nature a aussi des conséquences salutaires qui sautent facilement aux yeux, et qui dédommagent de leurs inconvénients, je ne m'attarde plus ici et je passe à la dernière considération, pour laquelle tous les développements qui précèdent étaient nécessaires, pour ainsi dire, en tant que préparation, à savoir au bouleversement des points de vue en général, qui est le résultat du soin positif de l'État. 7. Terminons cette partie de notre étude par une considération générale qui découle des points de vue les plus élevés. On néglige les hommes pour s'occuper des choses et les facultés pour ne voir que les résultats. D'après ce système, un État ressemble à un amas d'instruments, morts ou vifs, d'influence et de jouissance, plutôt qu'à une réunion de forces capables d'agir et de jouir. En négligeant l'indépendance personnelle des êtres actifs, il semble qu'on ne travaille qu'à leur bonheur et à leur jouissance. Même en supposant qu'il en soit vraiment ainsi, car après tout, c'est la sensibilité de l'être qui jouit qui ne saurait juger correctement de sa félicité et de sa jouissance, cela serait pourtant toujours très loin de la dignité humaine. Car s'il en était autrement, comment cela se ferait que ce système, qui n'a d'autre visée que le calme, renonce volontairement à la plus élevée des jouissances humaines, par crainte, pour ainsi dire, de son contraire? L'homme jouit le plus dans les moments où il se sent en pleine possession de sa force et de son unité. Cependant, dans ces moments-là, il est également tout aussi près du plus grand malheur. Car l'instant de la tension est forcément suivi d'une tension pareille. Et c'est l'insurmontable destin qui nous lance vers le bonheur ou vers la souffrance. Toutefois, du moment où seul le sentiment de ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme mérite le nom de bonheur, la douleur et la souffrance prennent une forme changée. Le moi intérieur de l'homme devient le siège du bonheur ou du malheur, il ne varie pas suivant les agitations du courant qui l'emporte. Ce système conduit, selon moi, à de vains efforts pour échapper à la douleur. Celui qui est vraiment apte à la jouissance supporte la douleur, qui sait bien joindre ce qu'il a fui, et se réjouit incessamment de la marche calme de la destinée. Que les choses naissent ou disparaissent, la vue de la grandeur est pour lui douce et attachante. L'homme en arrive ainsi à sentir, d'autant moins rarement qu'il a l'imagination exaltée, que même le moment de sa propre destruction est pour lui un moment de délice. Peut-être m'accusera-t-on d'avoir exagéré les inconvénients qu'on vient d'énumérer. Mais je devais dépeindre en entier l'influence exercée par l'immixtion de l'état, dont il est question ici. Et il va de soi que tous ces inconvénients sont très différents selon le degré et le mode de cette ingérence. De toute façon, je me permets de demander que pour tout ce que ces pages contiennent de général, on veuille bien ne faire aucune comparaison avec les faits. Dans la réalité, on trouve bien rarement un cas complet et pur. Et même quand cela arrive, on ne voit pas distinctement et pour soi l'action particulière de chaque chose séparée. Il ne faut pas oublier non plus qu'étant donné une fois l'existence d'influences mauvaises, le mal fait de bien rapides progrès. De même qu'une grande force unie à une grande force en produit une deux fois plus grande, de même la faiblesse unie à la faiblesse produit une faiblesse deux fois plus grande. Quelle pensée oserait suivre la rapidité de ce mouvement? Toutefois, en admettant même que les inconvénients soient moins considérables, il me semble que la théorie développée ci-dessus se justifie plus qu'amplement par le salut vraiment incalculable qui résulterait de son application, en supposant, ce qui peut faire doute, que cette application soit de tout point possible. En effet, la force, toujours active, jamais oisive, innée des choses, combat toute institution qui lui est contraire, et promeut toute institution qui lui est salutaire. De telle sorte qu'on peut dire en toute vérité que l'application la plus ardente ne saurait jamais produire autant de mal que ce bien, qui n'est toujours et partout tout seul. Je pourrais ici présenter comme contraste l'heureux tableau d'un peuple vivant, dans la liberté la plus élevée et la plus illimitée, vivant pour lui-même au milieu de la plus grande variété de conditions existant en lui et autour de lui. Je pourrais montrer combien ici l'expression de la diversité et de l'originalité devrait paraître plus belle, plus grande, plus admirable que dans cette antiquité tellement superbe, dans la mesure où le caractère propre d'un peuple moins cultivé est toujours plus rude et plus grossier, où les forces et la richesse même du caractère grandissent avec la délicatesse, où l'union presque infinie de toutes les nations et de toutes les parties du monde donne un bien plus nombre d'éléments. Je pourrais montrer quelle vigueur se développerait nécessairement si tout être s'arrangeait de par soi-même, si chacun, entouré sans cesse de forces excellentes, s'assimilait ses forces avec une activité spontanée sans limite, et toujours excitée par la liberté. Je pourrais faire voir vers quelle délicatesse et quel raffinement l'existence intérieure de l'homme évoluerait, combien son moi intérieur deviendrait sa première préoccupation, combien tout ce qui est physique et extérieur pénétrerait l'être intérieur, moral et intellectuel, combien le lien qui unit ces deux natures de l'homme gagnerait de force durable, si rien ne venait plus troubler la libre répercussion des occupations humaines sur l'esprit et le caractère. Je pourrais faire voir comment personne ne serait sacrifié à autrui, comment chacun conserverait pour soi la force qui lui a été départie, et serait, par suite plus inspiré par une plus noble disposition, à lui imprimer une direction salutaire à ses semblables. Combien, si chacun progressait dans son originalité propre, de nuances variées et délicates, du beau caractère humain, verrait le jour. Combien l'aptitude exclusive deviendrait d'autant plus rare qu'elle n'est en général que la conséquence de la faiblesse et de l'insuffisance. Et d'autant plus rare que chacun, si plus rien ne contraignait les autres à se faire semblable à lui, seraient plus fortement poussés à se modifier soi-même d'après eux, par la nécessité toujours persistante de l'union avec autrui. Comment, chez un tel peuple, toutes les facultés et toutes les mains travailleraient à l'élévation et à la jouissance de la vie humaine? Je pourrais montrer enfin comment chacun aurait d'autres, mobiles que celui-là, et serait détourné de tout autre du faux, ou moins digne de l'humanité. Je pourrais terminer en faisant remarquer combien les effets salutaires d'une telle constitution, répandue chez un peuple, quel qu'il soit, enlèveraient à ses misères, qu'il est cependant impossible, hélas, de faire entièrement disparaître, au ravage de la nature, à l'action mauvaise des passions hostiles, aux excès des penchants assouvis, une immense part de leur horreur. Mais il me suffit d'en avoir démontré le contraste. Je me contente d'esquisser des idées, et de les offrir à un jugement plus mûr. Si j'essaye de tirer la conclusion de tout ceci, je trouve que le premier principe fondamental de cette partie de la présente étude est celui-ci. Que l'État se retienne de tout soin pour le bien positif des citoyens. Qu'il ne s'avance jamais plus qu'il n'est nécessaire, pour leur garantir la sûreté entre eux et vis-à-vis des ennemis extérieurs. Qu'ils ne restreignent jamais leur liberté en faveur d'un autre but. Je devrais maintenant m'occuper des moyens à travers lesquels un tel soin peut être exercé activement. Mais comme mes principes me conduisent à le désapprouver entièrement en lui-même, je puis garder le silence sur ces moyens et me contenter de remarquer en général que les moyens par lesquels on restreint la liberté dans l'intérêt du bien-être peuvent être de nature fort diverse. Ils peuvent être directs, tels que les lois, les encouragements, les primes. Ou indirects, tels que la situation faite au souverain, lequel est le propriétaire le plus important, les concessions qu'il fait à des citoyens isolés de privilèges, de monopoles, etc. Tous entraînent des mots, quoique variables suivant le degré et le mode dont on les emploie. À supposer qu'on ne soulève aucune objection contre la première et la dernière partie de ma critique, il paraît pourtant étrange de vouloir interdire à l'État ce que chaque individu peut faire, établir des récompenses, distribuer des secours, être propriétaire. S'il était possible en pratique, comme il est concevable en théorie, que l'État joue ainsi un double rôle, il n'y aurait rien à dire là contre. Il n'y aurait là aucune différence avec la situation dans laquelle un particulier acquiert une grande influence. Mais, sans tenir compte de cette différence entre la théorie et la pratique, l'action d'un particulier peut être arrêtée par la concurrence des autres citoyens, par la dispersion de ses biens, ou même par la mort, tout ceci étant des causes qui n'existent plus quand il s'agit de l'État. Le principe que l'État ne doit se mêler en rien, de ce qui ne concerne pas exclusivement la sûreté, s'impose d'autant plus fortement qu'il ne repose pas seulement sur des motifs tirés exclusivement de la nature de la contrainte. De plus, les actions des particuliers ont d'autres mobiles que l'État. Si par exemple un citoyen propose des récompenses, en admettant, aussi invraisemblable que cela soit, qu'elles aient la même influence que celles proposées par l'État, alors ce citoyen agit ainsi dans son propre intérêt. Mais son intérêt à lui, à cause de son commerce permanent avec le reste des citoyens, et à cause de l'identité de sa condition avec la leur, est en proportion avec l'intérêt, ou le préjudice des autres citoyens, et par suite avec leur situation. Le résultat qu'il veut obtenir est déjà préparé dans le présent, pour ainsi dire, et, par conséquent, son influence est salutaire. Tout à l'inverse, les mobiles de l'État se composent d'idées ou de principes sur lesquels le jugement, même le plus sain, se trompe souvent. Il existe même de ces mobiles qui naissent de la situation privée de l'État, laquelle, de sa nature, n'est que trop souvent redoutable pour le bien-être et la sûreté des citoyens, et n'est d'ailleurs jamais la même que celle de ces derniers. Si cette similitude existait, ce ne serait plus dans la réalité l'État qui agirait, et la nature de ce raisonnement fait qu'on ne pourrait alors l'invoquer. En ceci, et dans tout le raisonnement qui précède, on s'est placé de ces points de vue. d'où l'on ne considère que la force de l'homme, comme homme, et son perfectionnement intérieur. Le reproche d'exclusivisme pourrait être adressé à ce raisonnement, si négligeait absolument les résultats dont l'existence est nécessaire, et sans lesquels cette force ne peut agir. Ainsi se présente maintenant la question de savoir si ces choses, du soin desquelles l'État doit s'abstenir, peuvent prospérer toutes seules et sans lui. Ce serait le moment d'examiner séparément les divers modes de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de toutes ces choses dont je m'occupe en bloc, et de distinguer, en connaissance de cause, quels sont, pour chacune d'elles, les avantages et les inconvénients de la liberté et de l'activité livrée à elle-même. Le manque de connaissances techniques m'empêche d'entreprendre un tel examen. Je considère d'ailleurs qu'il n'est plus nécessaire à mon sujet. Toutefois, s'il était bien fait, et surtout de manière historique, il pourrait être fort utile pour recommander davantage ces idées, ainsi que pour vérifier en même temps la possibilité de leur application largement modifiée, car l'ordre de choses existant permettrait difficilement son application illimitée dans quelque état que ce soit. Je me contente de quelques observations générales. Toute chose, quelle qu'elle soit, est mieux faite quand on agit plutôt pour elle-même que par amour pour ce qui peut en résulter. Cela est tellement dans la nature de l'homme que bien habituellement, une chose entreprise pour sa seule utilité finit par présenter du charme en elle-même. Cela vient de ce que l'homme préfère l'action à la possession, pourvu que cette action soit indépendante. Car l'homme le plus vigoureux et le plus actif préférerait l'oisiveté au travail forcé. De plus, l'idée de la propriété ne s'éveille qu'avec l'idée de la liberté, et nous devons justement à l'idée de la propriété notre activité la plus énergique. L'unité dans l'organisation est nécessaire à l'obtention de tout grand résultat. Cela est certain. Il en est de même. Pour empêcher ou détourner les grands fléaux, la famine, les inondations, etc. Mais on peut arriver à cette unité au moyen de dispositions prises par la nation, et non pas seulement au moyen de dispositions édictées par l'État. Il faut seulement donner aux diverses parties de la nation, et à la nation tout entière elle-même la liberté de s'unir en concluant des contrats. Évidemment, il reste toujours une différence incontestablement importante entre les dispositions prises par la nation et les prescriptions de l'État. Les premières n'ont qu'un pouvoir indirect, tandis les secondes disposent d'un pouvoir immédiat. Les premières, par suite, laissent plus de liberté pour former, dissoudre ou modifier le lien. À l'origine, tous les engagements contractés par les États n'étaient probablement que des alliances nationales. Mais l'expérience nous montre ici les conséquences funestes qui se produisent quand l'intention de conserver la sûreté est reliée à d'autres buts encore. Celui qui est censé s'occuper de ses affaires doit posséder, dans l'intérêt de la sûreté, un pouvoir absolu. Mais il l'étend aussi sur tout le reste. Et plus l'institution s'éloigne de son origine, plus le pouvoir grandit et plus le souvenir du pacte fondamental s'efface. Or, une institution ne peut avoir de force dans l'État qu'autant qu'elle maintient l'existence et l'autorité de ce pacte. Cette raison seule pourra bien déjà paraître suffisante. Mais même si le pacte fondamental était respecté de façon précise, et si le contrat passé par l'État était, dans le sens le plus strict du mot, un contrat national, la volonté des individus séparés ne pourrait encore s'exprimer que par la représentation. Et il est tout à fait impossible que le représentant de plusieurs personnes soit un organe absolument fidèle de l'opinion de ses représentés pris isolément. Or, toutes les raisons développées précédemment conduisent à la nécessité que chaque individu donne son accord. Cela exclut la décision à la majorité des voix, et pourtant, on en peut concevoir une autre pour de telles institutions de l'État ayant un objet qui se rattache au bien positif des citoyens. Il ne reste donc au dissident qu'à sortir de la société pour se soustraire à sa juridiction et pour rendre nulles à leur égard les décisions prises par la majorité. Mais ceci est rendu difficile presque jusqu'à l'impossibilité, si sortir de cette société veut dire en même temps sortir de l'État. D'ailleurs, il vaut mieux conclure des contrats isolés pour des raisons déterminées que d'en conclure de généraux pour les besoins indéterminés de l'avenir. Enfin, même les associations d'hommes libres dans une nation se forment très difficilement. Si, d'un côté, ceci nuit à l'obtention des buts ultimes, quoi qu'il ne faille pas oublier que ceux qui se forment difficilement gagnent plus de durée solide, car les forces longtemps éprouvées se réunissent avec une cohésion plus énergique, il n'en reste pas moins que de façon générale, toute association plus vaste est sans doute moins salutaire. Plus l'homme agit pour lui-même, plus il se cultive. Dans une grande association, il devient trop aisément un outil. Souvent encore, c'est la faute de ces associations que le signe prend la place de la chose même, ce qui est un obstacle à tout progrès. Les hiéroglyphes morts ne peuvent nous enthousiasmer comme la nature vivante. Pour tout exemple, je rappellerai ici les maisons de charité. Est-il une chose qui tue plus complètement toute compassion vraie, toute demande pleine d'espoir, mais sans prétention, toute confiance de l'homme dans l'homme? Qui donc ne mépriserait le mendiant, qui aimerait mieux être tranquillement nourri à l'année dans un hôpital que de rencontrer, après nombre de souffrances, non pas une main distraite, mais un cœur compatissant? Je concède volontiers que sans ces vastes groupes, en qui, si je puis ainsi parler, l'humanité a agi pendant ces derniers siècles, nous n'aurions pas fait tous nos progrès rapides, mais seulement les rapides. Les fruits auraient mûri plus lentement, mais ils auraient mûri. Et ne seraient-ils pas devenus plus doux? Je crois donc pouvoir me permettre d'écarter cette objection. Il en reste deux autres qui seront examinées par la suite. L'une consiste à demander si, avec l'insouciance de l'État, telle qu'on la stipule ici, la conservation de la sûreté est possible. L'autre revient à demander s'il n'est pas indispensable, du moins pour rassembler les moyens jugés nécessaires, pour que l'action de l'État puisse s'exercer, que les rouages de la machine étatique broient de façon multiple les conditions de vie des citoyens. C'était Introduction. Fin du chapitre 1.